Fréquence Kitsch. 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 Kitsch.
Hey, bonsoir les kitschers, prêts à remonter le temps ce soir. Grande soirée cinéma sur Fréquence Kitsch. Nous recevons ce soir nos amis du cinématographe de Château-Arnoux. Passionnés par le cinéma, ils nous ont fait aimer le grand écran dans le 04. Depuis le début des années 80, un collab sur tout le cinéma. Ce soir, je vous présente nos amis Jean-Paul Hénard et Jimmy Andréani qui nous rejoignent. Bonsoir les gars.
Bonsoir.
Jean-Paul, comment vas-tu?
Très bien.
Jimmy?
Ben, très bien, et toi?
Ah ben ça va, voilà. Ouais. Bonsoir Pat.
Et salut mon petit filou, ça va toi?
Ouais, on reçoit quand même les icônes du cinéma du 04 ce soir. Hein.
Ah ouais. Et deux icônes, hein, pas
deux icônes, ouais. Bon les gars, vous êtes prêts pour une soirée kitsch avec nous?
Ouais, prêt.
Bon ben super. Jimmy, qu'est-ce que tu nous dis? Allez.
Bah je sais pas, est-ce que je serai assez kitsch?
Bon,
on va voir.
Vu ta tête et le poids des années, oui, tu risques de rien.
Quelques anecdotes croustillantes ce soir, on va les partager avec Jean-Paul et Jimmy. Jean-Paul, toi, dis-nous un peu ce que tu penses de cette soirée-là. Allez, comme ça.
Nous pour nos amis kitschers. Pour les années 80, c'est notre arrivée à Château-Arnoux, donc c'est important pour nous. Ça. Depuis 83, on fréquente Château-Arnoux. On a ouvert à 85, mais... Et cette année, c'est les 30 ans du cinéma.
Bien.
Il faut pas oublier qu'ils sont de Marseille.
Et voilà,
ça, il faut le dire.
On était.
Ouais, quand on est de Marseille, on est à vie.
Ils se revendiquent pas d'Orifort. Là, les gars.
Non.
Alors, pas que ce soir, on retrouve quoi sur Fréquence Kitsch?
On va retrouver la formule qui fonctionne bien, on va dire comme ça. Le Kitscher, bien sûr, une série, le Kitsch nostalgique, l'émission Kitsch, le Kitsch Blick, le Quiz Émeride. Bien évidemment, comme toujours. Nous aurons un kitsch clip, le dessin animé, le kitsch mobile, l'extra kitsch mix. Ça sera DJ Lolol qui nous le proposera ce soir. Nous aurons un film et bien sûr le karaoke kitsch. Et on va signaler que l'émission a été concoctée, proposée. Et elle sera peut-être même présentée, va savoir, par nos amis ici présents.
Ouais, un choix très éclectique. On va bien se régaler ce soir. On va passer un petit bonsoir à Jérôme qui est parmi nous. Bonsoir G. Ben les gars, on va dire un petit bonsoir aux kitschers aussi.
Alors, bien sûr, les kitschers qui arrivent petit à petit. Ce soir, les amis, je vous invite vraiment à être présents et à bien jouer car on aura des cadeaux à vous offrir tout au long de la soirée. Et pas n'importe quoi comme cadeau puisqu'on va vous emmener au cinéma.
Ah ouais, voir le grand écran. Jean-Paul, Jimmy, on est parti?
On est parti.
Allez, on va se commencer avec de la musique un petit peu classique. C'est pas celle que vous aimez le plus, mais bon, elle a fait les beaux jours des écrans de cinéma. On écoute?
Vas-y.
Allez, on y va! Jusqu'à 22h, c'est Fréquence Kitsch, Jean-Paul, Jimmy, Patrice et Jérôme, avec vous, jusqu'à 22h.
N'oublions pas Filou quand même.
Ah ben, moi-même.
Bah oui.
Allez, bonsoir!
Sleeping in your bed. afraid of no ghosts. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Je crois 84 si mes souvenirs sont bons les gars.
Ouais,
je sais pas,
au
niveau cinéma 84 Ghostbusters avec avec qui déjà, qui c'est qui chantait Pat?
Rick Parker Jr.
Bien voilà, enfin, un bon quiz là, tiens pour commencer. Qu'est-ce qu'on envoie là, Pat?
On envoie le Kitcher ce soir hein, bien évidemment. Donc ce qu'on va dire c'est que nos invités ils adorent le Kitcher du soir. D'ailleurs c'est eux qui l'ont choisi, c'est normal.
Oui.
On va juste dire que c'est un acteur, on va dire que ça va aller très vite, on va dire qu'on va faire gagner deux entrées au cinéma, voilà, au plus rapide. Et il va falloir aller très vite parce que c'est des yeux qu'on vous propose. Et franchement, ces yeux-là, on les connaît vraiment bien. Hein.
La pub des années 80 de suite sur Fréquence Kitsch.
Fréquence Kitsch avec Pat et Philou.
For inspiration. Come on. We might.
grand classique des années 80 avec notre ami Madonna et son Into the Groove. Et ben voilà, on a trouvé, je crois, le kitcher du soir, Pat.
Oh, ça allait très très vite. Stéphane Daniel qui a découvert, bien sûr, Robert De Niro. D'ailleurs, on va pouvoir demander à nos invités, hein, pourquoi Robert De Niro, c'est le plus grand, c'est ça?
Après Brando, oui. Mais oui, effectivement, il y aura toujours Brando. Et tout ce qu'il a essayé de faire dans sa carrière, ça a été de s'intégrer au plus haut niveau auprès de Brando. Donc, et pour ça, il a usé de techniques d'acteurs qui sont assez impressionnantes. Et prendre 25 kilos pour jouer à Jim Bull, apprendre du sax pour faire New York, New York. Et puis voilà. Et il nous a donné parmi les plus belles scènes de l'histoire du cinéma américain. Voilà, incontestablement. Mais Brando est au-dessus.
Il y a Eric Cantona aussi. Il est capable de prendre 50 kilos pour jouer un film marseillais.
Des vrais caméléons. Tu avais une petite anecdote sur Madonna, Jimmy, tout à l'heure.
Oui, parce que vous avez passé cette musique là et recherche Suzanne désespérément. C'est le privilège de l'âge. On était dans la salle pour la première mondiale en 85. C'était la clôture de la quinzaine de réalisateurs. Et on était là pour la première mondiale du film. Voilà.
C'était tout début de Madonna.
Et c'était où?
À Cannes.
À Cannes. Ah,
ouais, pas en compétition officielle, mais à la quinzaine des réalisateurs.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, Madonna?
Ouais, pour De Niro, on a fait, pour ce qui me concerne, c'est vrai que on a découvert le cinéma aussi avec lui. Avec, il a enchaîné New York, New York, Raging Bull, Voyage au bout de l'enfer, Les Parrains, ça a versé nos années 80.
Est-ce que quand on est un cinéphile averti, il faut connaître toute la panoplie de De Niro? C'est-à-dire toute la cinématographie de De Niro.
Bah, ce qui est vrai pour les années 80 ou 90 est moins vrai maintenant pour De Niro, parce qu'il a quand même changé de registre. Et c'est un peu moins intéressant ce qu'il fait maintenant que ce qu'il faisait avant.
Tous les acteurs se ratent à un moment ou à un autre, de toute façon. Même le grand Brando. Oh, si.
Pas tous. C'est-à-dire que si on compare les deux carrières, celle de Pacino est un peu plus serrée quand même. C'est un peu plus intéressante. Mais c'est vrai que Jean-Paul a raison. Arrivé un moment, on ne sait pas si c'est pour des raisons alimentaires ou autres, il a enchaîné des tournages qui n'ont absolument pas, qui sont pas au niveau de son talent et de ce qu'il peut donner.
Tiré dans le commercial.
Et voilà, exactement. Ouais. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, il a donné une interview où il dit, je pense que ce qu'on va me proposer d'intéressant prochainement, ça viendra de l'Europe ou de la France, mais certainement plus des États-Unis. Voilà. Et je crois qu'il est très lucide là-dessus.
Et le problème, c'est l'argent. C'est bien connu. Quand ça marche au box-office.
Ouais, mais ces films ont marché quand même. Les Parrains. New York, New York, ça a marché quand même.
Ouais, mais alors à cette époque-là, enfin, il me semble, moi je suis pas super cinéphile, mais il me semble quand même que c'était pas la. On regardait pas autant les chiffres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand même le cinéma, c'est vraiment. C'est que le chiffre qui prime. Ouais, ouais. On fait une suite si ça a bien marché. Si ça n'a pas marché, la suite.
On peut même parler de franchise, on fait des franchises.
Voilà, des franchises. Ouais,
ouais. Ça a toujours existé, hein. Il y avait les gendarmes et les bidas en folie.
Non, mais d'accord, c'est vrai, mais il me semble que c'était quand même pas regardé comme aujourd'hui.
Il y avait deux sortes de cinéma quand même. Ouais. Ouais. Celui qu'on allait voir pour se faire plaisir, donc les Charlots, toute cette série de films des années 80, et puis il y avait ces films d'auteurs qu'on allait voir et que. C'était pour les initiés, enfin pour ceux qui aimaient vraiment le cinéma.
Il y avait surtout beaucoup moins de films que maintenant qui sortaient.
Aussi.
C'est la folie.
Comment vous faites le choix d'ailleurs? Tiens, c'est vrai que ça, c'est une question que je me suis souvent posé la question.
Le choix est simple, c'est-à-dire que sur le cinéma commercial, il y a des trucs qui sont totalement incontournables et qu'il faut montrer aux spectateurs, pour des raisons aussi.
50 nuances degrés actuellement, par exemple.
Voilà, totalement financière. Et puis après, sur le cinéma d'auteur, il y a tellement de films au jour d'aujourd'hui qu'on fait une sélection et là, on se fait plaisir. C'est-à-dire qu'on. On montre vraiment ce qui nous semble intéressant. Il y a des choses qu'on ne peut pas. D'abord, parce que, avec 3 salles sur plus de 700 films, je vous rappelle, 2014, plus de 700 films, quand on a ouvert le cinématographe, il sortait 120 films par an sur les écrans. Donc, on est sur une surenchère absolue, quoi. Ah oui. Donc, on est obligé de faire des choix, puisque de toute façon, on peut pas, 3 salles, on ne peut pas tout passer.
Ouais. Sans compter le cinéma jeune public qui également se développe grandement.
Bon, on a fait beaucoup de jeune public avec beaucoup de scolaires et beaucoup de rencontres, comme là on va faire au mois de mai Méli Mélo avec le théâtre et la médiathèque.
Ça fait 4-5 ans maintenant, ouais. Méli Mélo.
On croise livres, théâtre et cinéma. Ouais. Voilà.
On sera là, nous aussi.
J'espère bien.
Jean-Paul Jimmy, j'ai une petite question. Votre premier film en 1985, je crois, quand le cinéma Autographe a ouvert.
Là, il va vous demander si c'était un film de boule.
Non,
c'est pas ça.
Peut-être, qui sait. Non, mais je crois pas qu'ils étaient dans ce domaine-là.
Il y avait trois films la première semaine.
Allez, alors vas-y, tu t'en souviens?
Oui.
Non. Mec, il a de la mémoire, tu as vu.
On applaudit si c'est bon.
C'est facile, c'est inoubliable donc.
Il y avait Hold Up.
Hold Up avec Belmondo.
Belmondo, hein.
Oui. Il y avait Ram de Kurosawa, en version originale.
Ah, ça c'est un peu plus intellectuel, non?
Et après?
Trois hommes et un couffin.
Trois hommes et un
couffin. Ah, bravo, la version française.
Le troisième et un couffin.
Donc avec deux salles à l'époque.
C'est notre premier succès.
D'accord.
C'est-à-dire une petite anecdote, trois hommes et un couffin.
Oui, vas-y. On va enchaîner. De toute façon, on va parler toute la soirée comme ça, mais vas-y.
Ben, le premier samedi soir qu'on a ouvert, la salle était pleine à craquer, on avait refusé du monde. Et donc, on avait un matériel tout neuf. Et en cabine, le système de rembobinage a pris feu. Donc, ça a cassé.
Comme dans le cinéma Paradisio.
Voilà. Ça a cassé, il a fallu qu'on se débrouille, tout ça. Puis les gens, ils sortaient, ils nous disaient, oh, si ça commence comme ça.
On est à Château-Renaud, c'est Thomas.
Hein. Ouais.
Mais je pense que depuis cette anecdote, vous avez fait quand même du chemin, parce que bon, le cinématographe est incontournable quand même dans le département.
Les deux cinématographes.
Les trois. Oui, parce qu'il y a
Fort-Calquier.
Oui.
Non,
mais il y a Fort-Calquier.
Les trois salles marchent très bien. Et puis bon, voilà, il y a des gens qui sont vraiment... Au fond de leur savoir-faire au niveau cinéma. Voilà,
mais on en parlera tout au long de la soirée parce qu'il y a quelques questions importantes quand même à poser vis-à-vis du cinéma et des problématiques qu'il peut rencontrer actuellement, bien évidemment. Dans quelques minutes, mon ami Philou, peut-être ça sera leur série.
Ouais, on va envoyer de la musique et puis on s'envoie la série que vous avez choisie, hein, les gars, même si vous n'étiez pas trop serré à l'époque.
Un mot sur la musique qui est juste derrière.
Ah oui, vas-y.
Ben, Miles Davis.
Bien sûr.
Parce que Miles Davis, dans les années 80, c'est le grand retour de Miles Davis que tout le monde attendait. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, et là aussi c'est le privilège de l'âge, de le voir plusieurs fois en concert. Et ça reste des moments inoubliables. Surtout le concert de Montpellier en 86, et où il a joué ce morceau qui est à l'origine de Michael Jackson, Human Nature. Et qui est, le concert de Montpellier est considéré comme un des plus beaux concerts qu'il ait donné en France. Et c'était absolument inoubliable, extraordinaire.
Les auditeurs de Fréquence Mistral ont l'habitude d'entendre ce titre-là parce qu'on le passe régulièrement.
Et ensuite, après, on était dans un restaurant.
Ouais.
Et on s'est retrouvés après à manger avec Miles Davis et tous les musiciens. Et ils nous avaient fait un dessin à chacun qu'on a toujours.
On a voulu faire signer les tickets. Et en fait, il était très très bien luné après ce très bon concert. Et il nous a fait une caricature de chacun sur le billet de concert.
Eh ben, quel souvenir. Ouais. Des bons souvenirs ce soir sur Kitsch des années 80.
C'est ça.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes sur Fréquence Kitsch après Sylvester avec Jean-Paul et Jimmy ce soir. Et Pat. Les années disco avec notre ami Sylvester et son You Make Me Feel.
Fréquence Kitsch, le meilleur et le pire des années 80.
La série ce soir de Jean-Paul et Jimmy. Petit scarabée.
Et oui, nos amis ont choisi Kung Fu, série américaine, 62 épisodes, diffusée pour la première fois le 14 octobre 1972 sur le réseau ABC. En France, Kung Fu est arrivé en 74, deux ans plus tard, hein, sur la deuxième chaîne de l'ORTF. L'ORTF, vous avez connu
Ah oui.
Ah ouais, quand ouais, même,
interlude.
Eh non, mais si.
Le petit train, oh,
74.
Mais on s'y prend.
J'avais 3 ans, moi.
Moi, j'ai même connu là, une seule chaîne.
Ah oui,
l'ORTF, donc.
Alors, t'as fait une seule chaîne qui démarrait à 18h30.
Ouais, elle le fermait à 20h30. 2 heures de programme.
Les aventures d'un moine Shaolin, donc né d'un père américain et d'une mère chinoise, en fuite après avoir tué le neveu de l'empereur de Chine qui a lui-même abattu son maître. Lui.
Ah, ça devient compliqué.
C'est compliqué.
C'est pour ça que j'ai pas trop compris, moi.
C'est le Santa Barbara de l'époque.
Voilà, je le voyais marcher souvent dans le désert.
Mais en fait, c'est parce qu'il était en fuite.
Ah, d'accord.
Voilà. Alors, à l'origine, l'idée de Kung Fu est de Bruce Lee, je sais pas si vous le saviez, mais les producteurs américains le trouvaient, l'ami Bruce Lee, un peu trop asiatique pour jouer le rôle d'un chinois, vous voyez. En fait, ils avaient peur donc que la série ne fonctionne pas avec un homme non conforme à la norme. Et oui, racisme, quand tu nous tiens, hein, à cette époque-là, il y avait du racisme. Aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, bien sûr. Kung Fu fera l'objet de 2 téléfilms ainsi que 2 films en 86-87, mais ils le savent, avec Brandon Lee, donc le fils
de Bruce.
Hein, et donc qui est l'un des personnages principaux. Et puis la série Kung Fu, la légende, aura également été tournée durant 4 saisons dans les années 90. Ouais. Voilà. Avec David, ça, je pense qu'on a tout dit.
Ouais, David Carradine, qu'on a retrouvé dans un film dans les années 90 ou 2000, peut-être, non ?
Qui ça ? Pardon ?
David Carradine.
Ah oui, au port. Oui. Mais tu l'as vu dans qui dans
le dernier Tarantino, je crois, non?
Non, mais oui, dans
le dernier.
Oh là là.
Kill Bill.
Kill Bill, voilà, voilà. Merci.
Voilà.
Qui casse, moi j'allais dire qui casse
si, mais bon.
Kill Bill.
Il nous a quitté d'ailleurs.
Ouais, il nous a quitté. On l'a retrouvé.
Qui ça, Bill ou Kill?
Non.
Non, Carradine.
Mais oui, il y a pas très longtemps, non?
On l'a retrouvé en Thaïlande, je crois, non? C'est ça?
On dira pas comment.
On le gardera pour nous.
Pourquoi contre vous?
On n'était pas trop. Non. À vrai dire, dans ces années-là, on n'avait pas trop le temps de regarder les séries, on regardait pas trop la télé.
Vous faisiez quoi ?
Ben, on regardait beaucoup de films, on travaillait, on sortait beaucoup.
On était jamais dans la télé. Voilà. Jamais.
Et Kung Fu, moi, ça m'évoque des souvenirs parce que je le voyais toujours en noir et blanc.
Ouais. Kung Fu. C'est vrai que Jimmy me disait souvent qu'il était fourré au cinéma. C'est ça ?
Tout le temps.
Tout le temps, ouais.
Et donc, je le voyais toujours en noir et blanc. Et quand mon frère s'est marié, il avait acheté la télé couleur.
Quelle année?
74.
Oh, c'est l'année de Valéry Giscard d'Estaing qui arrive au pouvoir.
Oh là là.
Bah oui.
Non, mais attendez, la et culture, quand tu nous tiens.
La télé Continental Edison avec son pied tulipe blanc. C'est,
oui.
Ça, c'est un objet.
Ah ouais.
Et donc, toute la famille était allée voir
Kung Fu
et en couleur.
Avec un fait le soleil jaune.
Et donc, le générique, vous vous souvenez, il y avait un coucher de soleil.
Voilà, magnifique. Ouais.
Et donc, on était émerveillés.
Mais ça s'attirait quand même en longueur. Hein.
C'est vrai qu'on était complètement désemparés quand vous avez dit parlez-nous d'une série. Parce que les séries, d'abord, il faut savoir quand même pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est que dans nos années à nous, il y avait très peu de séries.
C'est voilà. Vrai, hein.
Il y avait Dallas. Ouais,
voilà, les trucs.
Dallas, même pas, c'est arrivé plus tard.
Il y avait les Envahisseurs, le Mystère de
l'Ouest. Ah non, mais là, tu es plus près des années 70, tu vois.
Oui, non, mais c'est bon, voilà. C'est bon pour vous les années 70, les gars. Voilà. On accepte.
Ouais, bon, merci. Merci.
On prend.
Sympa.
Et on ira voilà, pas jusqu'en des bois. Hein.
Voilà.
Ou à Thierry Lafond.
Thierry Lafond. Ta 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 ta.
Donc voilà, on était un peu désemparés. D'où le choix de Kung Fu.
Non, mais voilà. C'était un bon choix, hein. On l'avait déjà.
Oui, on l'avait déjà passé.
Exhumé de notre grenier. Eh bien, on va retrouver donc le slow qu'ils ont choisi ce soir, nos deux amis.
Oui, juste, tiens, puisqu'on parlait de Bruce Lee, c'est quoi la série qui. Où Bruce Lee a été l'un des héros, on va dire ? Ah. Oh là, je les colle, les mecs. Oh, je les colle. Il y a eu un film, peut-être en 90. En 2010.
C'est pas dans Kill Bill ?
Non. Le frelon vert.
Ah, le frelon vert.
Eh oui, c'est la série qui a révélé l'ami Bruce Lee, le frelon vert.
D'accord.
Où il joue le rôle de Kato.
Ah ben aujourd'hui, on s'endormira moins bête, les gars.
Ouais. Je vous le dis.
Allez. Bruce Lee, c'est notre jeunesse, nous aussi.
Ouais. Direction les slows des années 80, ce soir.
Fréquence Kitsch, avec Pat et Filou.
Pour notre ami Hervé Roland, que l'on retrouvera jeudi, hein, pour un spécial Black Station, spécial
funk. Ouais, ouais. 20h30, 22h, voilà. Et c'est quoi ? C'est un spécial, qu'est-ce qu'il nous a dit, au fait ?
Le funk.
Ah, c'est un spécial funk, ouais. Mais sauf qu'on ne choisit pas les disques.
Non.
Voilà, il a pas dit ce coup-ci, vous ne choisissez pas, les gars.
On n'est pas à la cafette. Papa Wine, Prince.
Je m'inquiétais pour toi.
Mais c'était du cinéma, t'es complètement débile.
Je ne suis pas jaloux.
Alors casse-toi.
Lui touche pas la zigounette.
Ce soir, alors Pat.
Ah oui, on va essayer de pas toucher la zigounette à personne, hein. Ça serait quand même un peu stupide.
Un poisson nommé Vanda. Vous vous rappelez ?
Oui.
Ouais.
Énorme film, oui, d'ailleurs, le poisson.
Je l'ai vu cette semaine, super, je me suis régalé.
Allez, on a un kitsch blick à vous proposer. C'est un objet culte des années 80 qui a été choisi par nos amis. Deux entrées, toujours pareil, hein, deux entrées, oui, celui qui gagne et qui découvre en premier. Là aussi, ça devrait aller assez vite. Mais avant de l'envoyer, peut-être, allez, quelques petits bonjours. Anna, Stéphane, Christian, Laurent, Céline, Cadis, qui sont avec nous, c'est les habitués. Hein.
Oh my lady, lady.
Patrick Juvet, ça, Ladies Night, dans les années 80, tout début, hein, les versions disco, on retrouve tout de suite l'émission de Jean-Paul et Jimmy ce soir.
Fréquence Kitsch, le meilleur et le pire des années 80.
Ah, c'est d'époque, hein.
Ah oui.
C'est vraiment d'époque, hein. Alors, il fallait la trouver, celle-là.
Ouais.
Il fallait la trouver. Étoile et toile.
Toile.
Voilà. Alors, c'est une émission culturelle proposée et présentée par Frédéric Mitterrand sur TF1. On a la réponse. On se posait la question. Entre 82 et 86, c'est le cinéma, en fait, d'époque et actuel. Enfin, à l'époque actuelle.
Bonjour. Je m'appelle Frédéric Mitterrand. J'ai 35 ans et ça fait 12 ans que je voyage. Je voyage dans un continent immense et mystérieux qui s'appelle le cinéma. Mes étapes pendant ce voyage, ce sont les studios, les plateaux de cinéma, les appartements des producteurs, les appartements des vedettes, les endroits où se trament tous les coups qui permettent de faire des films. Mes compagnons de voyage, ce sont tous ces gens du cinéma. Les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les techniciens. Je les vois, je les connais, je les comprends. Il y en a que j'aime, d'autres que j'aime moins. Je vous parlerai d'eux. Ça ne sera pas toujours très gai.
Non.
Ça ne sera pas toujours très gai parce que le monde du cinéma, c'est un monde difficile. Les producteurs perdent de l'argent, les réalisateurs ont quelquefois du mal à construire leurs films. Et puis les stars, elles vieillissent. Et ça leur fait du mal. Alors, ça ne sera pas toujours très gai, mais en même temps, ça vaut vraiment la peine de faire ce voyage. Pour ce voyage, il y a trois routes. Il y a la route de l'actualité, je vous montrerai des actualités. Il y a la route des gens que l'on rencontre, je vous montrerai des gens que l'on rencontre et qui font des films. Et puis il y a aussi la route des souvenirs. Le cinéma, il a 80 ans, il a plein de souvenirs, il y a plein d'objets de toutes sortes qui jalonnent les chemins qu'on va conquérir, qu'on va suivre. Alors, parmi ces souvenirs, pour commencer, je vous en ai choisi un premier, c'est Marilyn Monroe à ses débuts. Marilyn, quand elle était encore starlette. La voilà.
Et voilà. Wow. Ah, ça ne plaisante pas. Bonsoir. Bref, donc je disais 82-86, hein, le cinéma d'époque donc est actuel, qui est mis à l'honneur grâce à cette émission. Le monde devant et derrière la caméra, vu sous tous les angles, donc ses contes de fées, ses travers, ses excès, le meilleur et le pire hein, du 7e art. C'est un petit peu comme Fréquence Kitsch en fait. Nous, c'est surtout le pire des années 80, mais voilà. Cette émission, alors, comment vous l'avez trouvé celle-là?
Parce qu'on l'a regardé.
Non, c'est pas possible, il y a personne qui a regardé ça.
Bien sûr, parce qu'en fait, c'était nouveau. Parce que là, il faut le replacer dans le contexte politique de l'époque. C'est-à-dire que quand la gauche est arrivée au pouvoir, ils ont voulu. Ils ont viré Daniel Gilbert, rappelez-vous.
Oui.
Et ils ont voulu mettre en place des émissions dites culturelles. Voilà, et Mitterrand avait créé cette émission. Et pour te contredire, il n'y avait pas le pire, il n'y avait que le meilleur.
D'accord.
Émission. Voilà. Et donc, ça a commencé par le générique mythique du Mépris de Godard. Et voilà, c'est un truc qui a marqué donc, tous les cinéphiles. Et surtout, c'était totalement novateur. Une émission qui parlait du cinéma d'auteur comme ça n'existait pas. Il y avait Monsieur Cinéma, il y avait des trucs comme ça, enfin, voilà, où on débattait sur la cinéphilie, sur des connaissances comme pures, mais il n'y avait pas d'analyse de fond comme le faisait Mitterrand sur ses émissions.
Mitterrand était le présentateur idéal pour ça?
Il est très brillant, oui, comme présentateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'émission, ça n'existe plus.
Ah non.
La télévision, avec le nombre de chaînes qu'il y a, il n'y a plus d'émissions sur le cinéma.
Apostrophe, tout. Mais, enfin, voilà. Dans ce genre d'émission intellectuelle, voilà, qui a disparu.
Maintenant, tu as des émissions intellectuelles sur les jeux vidéo.
Ah ouais. Voilà. De la télé-réalité, donc qui font chier tout le monde. Hein.
Alors il faut que vous sachiez que en fait Mitterrand faisait le même métier que nous, c'est-à-dire qu'il était exploitant de salle, il avait une salle à Paris.
D'accord.
Voilà.
Les Olympiques.
Et donc c'est quelqu'un qui vient de
ce milieu-là.
De ce milieu-là. Voilà. Donc c'est
il n'a pas été choisi au hasard.
Et voilà. Intervenait à cette émission Jean Douché, qui vient régulièrement au cinématographe animer des stages. Mm-hmm. Donc il intervenait comme journaliste.
Ah, ça c'est bon à savoir ça.
Oui.
C'est vrai qu'on est déjà venu le rencontrer.
La troisième salle de cinéma s'appelle la salle Jean Douché.
Ah, ça moi je savais pas par contre.
Voilà.
Pas triste quand même.
Ah non, tu le savais toi, allez arrête, fais pas celui qui.
J'ai un petit peu bossé avec Jean-Paul.
Moi, la différence entre toi et moi, c'est quand il y a quelque chose que je sais pas, je le dis.
Hein, parce que personne ne le sait que tu as travaillé avec nous.
C'est vrai, ouais, ouais. J'ai bossé un peu au cinématographe.
À quelle année?
Alors c'était de 89 à 90 peut-être. Hein. Ouais, ouais. Je me rappelle de bons souvenirs.
C'était à l'époque où il y avait encore les films à 1h
oui,
du matin.
Ouais, ouais, je faisais du montage de films. Et voilà, on a appris pas mal de trucs et c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, ouais. J'ai bien apprécié, en plus, leur compagnie qui était agréable. Donc,
tu faisais moitié cinéma, moitié ACDC.
Voilà, ouais. Moitié spectacle. Ouais.
C'était l'association culturelle de Châteauroux.
Ouais, ouais. Donc, de grands moments. On va écouter un petit morceau que Jimmy affectionne beaucoup, hein, puisque tu as le même prénom.
Il paraît.
Hein,
il paraît.
Jimmy Somerville.
Jimmy Somerville.
Voilà. Jimmy sans bouillir.
Allez pour Jimmy ce soir.
Avec Pat et Philou.
Et voilà, jusqu'au bout, Jimi Hendrix, super.
Heureusement que t'as pas coupé parce que j'ai tremblé, j'ai dit pourvu qu'on ait pas un problème à la radio.
Il me coupait la gorge, là, Jimmy, il me coupait la gorge. Pat, des petits messages, non?
Non, simplement pour dire que le kit public a été découvert, c'est l'ami Lolo qui a découvert le Walkman.
Ah oui.
Bah, le Walkman, alors on n'allait pas dire précision, cassette, CD, non. À l'époque c'était le Walkman cassette. Hein,
cassette.
Le plus connu. Le plus connu, je crois que c'était le Sony.
Ouais, ouais.
Voilà,
Autorouse.
Il y avait le Philips qui était pas mal aussi, je sais pas si vous vous rappelez. Le Philips qui était pas mal aussi.
Il y avait le pâté Marconi aussi. Allez, on s'écoute Gilberto Gil, on se retrouve avec Jimmy et Jean-Paul dans quelques secondes.
Primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Que
primeiro carnaval, primeiro memorinho também. Que Deus dê. Primeiro índio abatido também, que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. Tudo bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus dê.
Le groupe tube de Gilberto Gil qu'on a eu nous l'occasion de rencontrer du côté de Château Arnoux, hein, le cinéma, la musique, une super bibliothèque, ben on a le choix au niveau culturel là-bas, hein, les gars.
Et puis après on a rencontré aussi Gilbert,
Gilles, d'accord.
Tour le matin.
Allez, c'est le kitsch mérite de notre ami Pat. Kitsch me quiz ou kitsch mérite.
Tu le dis comme t'as envie. Ça marche à un endroit comme là.
Ah, l'actualité des années 80.
Non, en fait, c'est l'actualité d'hier. Hier, c'était la journée internationale de la femme. Mais donc, quand a-t-elle été établie pour la première fois cette journée en France? Tiens, est-ce que vous le savez ça?
Pose la question à Jean-Paul ou à Jimmy.
C'est pas dans les années 75, 76?
Ah, 77. T'étais pas loin.
Ouais. Bien, allez.
Alors, moi, je me suis un peu amusé. Et je me suis dit, tiens, quelles sont les 10 questions que l'on se pose le plus sur les femmes? D'accord? Ah ouais!
Vas-y, il n'y en a que 10.
Donc, j'en ai pris 10. Donc, avec combien d'hommes elles ont couché? Ta femme, tu vois, avec combien d'hommes tu te poses la question? Tu te dis, mais en fait, il ne faut jamais poser.
Des réponses?
Non, il ne faut surtout pas la poser, cette question.
Ah d'accord.
Voilà. Alors, par contre, un petit conseil aux femmes, vous pouvez répondre, mais que si c'est en dessous de 5. Au-dessus, il vaut mieux pas. Quoi.
D'accord.
À quelle fréquence les femmes se masturbent-elles ou utilisent-elles un jouet? On se pose cette question-là.
Un coin-coin, là.
Et ouais, voilà, un coin-coin, si tu as envie. En fait, c'est un énorme tabou, hein, encore dans une société qui se veut libérée du string. Ouais. Les femmes ont toujours du mal à avouer qu'elles se donnent du plaisir seules.
Ouais. Bon.
Combien de temps dois-je attendre avant de rappeler une femme qui m'a donné son numéro de téléphone? Vous avez une... Non, personne?
5 minutes.
Deux jours? T'es pas mal, puisqu'aux États-Unis ils disent 3 jours. Et nous, les femmes françaises, elles disent que c'est trop long, 3 jours. Donc, 2 jours, c'est pas mal.
Donc, il faut les rappeler de suite.
Ouais, voilà, tu les rappelles.
Pour être sûr d'avoir un bon coup.
C'est ça. Les femmes mentent-elles sur la taille du pénis de leur compagnon? Toi, je sais qu'elles mentent, hein, parce que c'est pas possible ce qu'elles racontent. Non, elles mentent pas? Non, en fait, elles en parlent pas en général. Non, elles en parlent pas, mais n'empêche qu'elles parlent quand même de choses très intimes aussi.
Tu as pensé avant de faire ton kiss mérite?
Non, j'ai demandé, oui.
Le carré blanc?
Ah non, le carré blanc quand même pour ça, non.
Jean-Paul, il a pas l'âge d'écouter ça. Hein.
Monsieur Jean-Paul, regarde. Réveiller une. Ah, là, ça, les gars, vous allez pouvoir me dire si vous l'avez déjà fait. Réveiller une femme au milieu de la nuit pour lui faire l'amour. Est-ce que c'est cool selon vous?
Ah oui?
Oui, mais ça allait vers les femmes.
Ah, il est aussi. Pas mal, bah, oui. Alors en théorie, oui. Mais en fait, une femme quand ça dort, en fait, ça dort.
Non. C'est que ça allait vers les femmes.
Et voilà.
Les femmes qui adorent ça.
En théorie.
Il y a les femmes où c'est hors de question.
Voilà, il y a des femmes où. Mais en général, quand même, en général,
ta théorie,
elle préfère dormir.
Ça dépend si le travail le lendemain ou pas.
L'excuse bidon. Ouais.
Alors après, tu peux dire ça dépend aussi le job. Hein.
Aussi.
Comment demander poliment comment on demande poliment une fellation ou une sodomie à sa femme?
Alors là, je sais pas.
On la demande
Joker,
pas.
Joker.
Ça se demande pas, les gars, quand même. Déconnez là. Est-ce qu'une alliance empêche une femme de flirter avec un homme qui la porte, selon vous?
Non.
Non.
Alors, en théorie, oui, mais en pratique, en principe, elles aiment quand même bien aller sur les plates-bandes des autres. Hein. Quelle est la zone la plus hétérogène du corps d'une femme, selon vous? On va voir si vous êtes...
Le cou.
Le cou, le pied.
Nombril.
Ça dépend.
Non, en fait, il y en a beaucoup. Et comme pour tout à l'heure, ça dépend des femmes. Chaque femme, à vous de découvrir. Hein. J'espère que vous avez trouvé les points sensibles des vôtres, les gars. Hein, parce que sinon...
Je n'ai pas ceci.
c'est justement ce que répondent les femmes en principe. Mais souvent, c'est quand même à côté. Est-ce que les femmes simulent?
Forcément.
Sûrement.
Pourquoi pas?
Alors, si vous répondez, si vous posez la question à une femme, elle vous répondra que elle, non.
Jamais.
Ouais. Voilà, mais elles le font tout.
Hein. Et tu sais ce qu'on dit, hein, il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des hommes incapables.
Ça, c'est toi qui le dis. Je suppose que tu as de bonnes relations pour savoir ce genre de choses. Pourquoi les femmes vont-elles aux toilettes à deux? C'est la dernière question, est-ce que vous le savez?
Non.
C'est dans la porte, le sac.
Pour se remaquiller.
Bon, en fait, ça tient de l'adolescence, tout bêtement. Elles allaient au WC ensemble et donc c'est resté comme ça. C'est pour tenir la porte pour si jamais quelqu'un arrive. Voilà.
D'accord.
Tout bêtement. Allez, rapidement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un joueur de tennis, Ivan Lendl. Il a fêté son 55e anniversaire. C'était ce week-end. Le chanteur et musicien Randy Meisner donc a soufflé lui 69 bougies hier. De quel groupe célèbre est-il membre? Vous le savez? Des années 80. Par hasard, non,
non?
Non, mais regarde pas sur la feuille.
Non,
c'est...
non, je regarde
pas. Non, mais... Redis le nom.
Redis le nom, Randy Meisner.
Alors, connais pas.
Je sais pas.
Non, c'est le chanteur des Eagles, ça. Joyeux anniversaire à Juliette Binoche, tiens, aujourd'hui, 51 ans.
Ouais.
Et puis demain, deux anniversaires à souhaiter. Sharon Stone, quand même. Hmm? Voilà, Didier Barbelivien, à savoir 57 ans pour Sharon Stone et 61 pour Barbelivien. Enfin, on termine avec ce qui est Chimérid, avec quand même une date un peu douloureuse, à savoir le 11 mars 1978. C'est dans pas longtemps, hein, c'est dans deux jours. Vous savez ce qui s'est passé le 11 mars 1978?
Le décès de notre ami Clo-Clo.
Et voilà. Eh oui. Claude François qui s'est électrocuté dans sa baignoire en voulant non pas changer une ampoule comme on dit, mais c'était il y avait un faux contact et il avait les pieds dans la baignoire et c'était une applique. Et voilà, il s'est électrocuté.
Allez, on se l'écoute.
Bah oui.
Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Quand on vit dans la vie comme des amoureux, tu prends les nuages blancs ou gris, petits ou gros, tu les déchires en morceaux. Tu mets les orages au fond d'une cage et puis tu les jettes à l'eau. Tu attrapes au piège des flocons de neige, tu en fais des arcs-en-ciel. Tu passes sur la brume des rayons de lune, des oranges et puis du miel. Il fait bon, la vie coule comme une chanson. Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Quand on vit dans la vie comme des amoureux, tu joues les cigales, tu parles aux étoiles en plein milieu de l'hiver. Tu te prends la tête dans mille planètes et tu marches sur la mer. Tu pars en croisière autour de la terre le long de la voie lactée. Et tu te retrouves où l'on se retrouve quand on ne sait plus où l'on est. Il fait bon, la vie coule comme une chanson. Aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Quand on vit dans la vie comme des amoureux. La 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 une fille. Elle aimait un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux. Quand on vit dans la vie comme des amoureux.
Claude François, il fait bon, je crois. Hein. 78, il nous quittait, le bonhomme.
Je sais pas, 23, 24 degrés, là, peut-être un peu plus.
Le kitsch vidéo dans quelques secondes.
Oui, le kitsch vidéo.
Kitsch clip.
Oui, ouais. ils se sont pas foulés. Enfin, non. Attends, je me reprends. Ils ont trouvé The Clip.
The Clip.
S'il y a un clip dans les années 80 qui révèle tous les autres clips, c'est celui-là, il me semble.
On est d'accord.
Si je me tourne vers Hervé, je lui dis, à ton avis, le plus grand clip des années 80 Thriller. Ben voilà, Thriller.
Ah oui.
Voilà, choisi par Jean-Paul et Jimmy ce soir.
Oui, nous, on regardait que les... Comment s'appelait les Scopitone, avant.
C'est, oui, c'était un film, en fait. Hein.
18 minutes,
c'est,
je crois.
C'est surtout un grand réalisateur qui le fait, quoi. Ouais,
oui. 17. Un peu moins, ouais. Un peu
et
moins,
produit par John Landis, je crois.
C'est réalisé par
voilà, c'est ça, John Landis.
Qu'est-ce qu'il avait fait comme film déjà dans les années 80
American Hamburger.
American Graffiti, comme c'était.
Non, ça c'est Lucas.
C'est Lucas.
American Film Sandwich.
Ouais, c'est ça.
Film d'horreur aussi, il avait fait quelques films d'horreur.
Oui, mais.
Après, il a produit
Hurlement.
Hurlement. Bon, merci Hervé. Allez, on y va avec Jackson ce soir sur Kitsch. Yeah.
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Fréquence Kitsch, le meilleur et le pire des années 80.
Lui, il s'appelle Roger. Avec lui, vous rirez. Allez, mon vieux, détachez-le, va devenir fou furieux.
Devenu fou, ça, je ne crois pas.
Je ne suis pas dans le rythme. C'est dur de faire des rimes. J'ai pas le talent de... Du fou chantant.
Ne perdons pas de temps.
Merci. Je me sens plutôt nouille. Un bol de fer l'andouille. Ça me chatouille, faut que je me débrouille à coups de pied dans les...
Miss !
Miss ? Mais ça rime pas avec couille.
Non, mais ça, oui.
Eh oui, le dessin annué, ce soir choisi par Jean-Paul et Jimmy.
Oui, dessin animé ou film d'animation plutôt quand même, qui veut la peau de Roger Rabbit, donc le long métrage américain sorti en 1988, coproduit donc par une filiale en fait de la Walt Disney, considéré comme le 34e long métrage d'animation des studios Disney, donc hein, qui entremêle personnages de fiction et acteurs réels. Ce film est adapté en fait du roman de Gary Wolf publié en 1981. En gros, on est en 1947, Los Angeles et Toonville se touchent. Les Toons se déplacent régulièrement chez les humains pour tourner des dessins animés. Roger Rabbit, un lapin acteur, est accusé de meurtre. Un détective privé qui se nomme Eddie Valiant va l'aider à prouver son innocence et démanteler un complot malfaisant. Voilà. Super film, non ?
Jimmy, pourquoi ce choix ? Jean-Paul ?
C'était surtout une révolution technique. C'est la première fois où on voyait des personnages avec de l'animation sur la même pellicule. Parce que bon,
d'autres films d'animation. T'es sûr que c'était la première fois ?
Non, oui. Tex Avery l'avait fait avant.
Oui, il me semble qu'il
avait. Il y avait Mary Poppins peut-être.
Et voilà, moi je pense que c'est quand même pas mal sur. Mary Poppins avec les oiseaux déjà.
Tout à fait, mais ceci dit, le film est un hommage absolu à l'univers de Tex Avery. C'est-à-dire que sans l'univers de Tex Avery, ce film-là n'existe pas. Vous retrouvez la même pin-up.
C'est vrai.
Vous retrouvez toutes les expressions du lapin dans tous les personnages de Tex Avery. Et c'est pour ça que c'est un film qui nous a marqué, parce que nous, on était fans déjà depuis fort longtemps de Tex Avery. Et ce film a permis de remettre au jour et au goût du moment, de faire découvrir en fait l'univers de Tex Avery. Et ça a été vraiment un moment important à ce niveau-là.
Par contre, pour revenir sur ce que disait Jean-Paul, c'est vrai que sur ce film-là, c'est constamment qu'il y a les personnages de fiction et les personnages réels.
Mais c'est voilà. Un long métrage. Parce
que
oui, en plus, c'est des cours.
Et voilà. On remarquera qu'il y a un mélange aussi des personnages de Disney et des personnages de Tex Avery. Donc c'est
de la Warner. De la Warner.
C'est très rare ça. C'est très rare à voir.
Ouais. Ouais.
C'était un film surprenant. Moi, j'ai trouvé surprenant et surtout aussi qui arrivait à aussi entremêler l'intergénérationnalité, quoi. Voilà, entre les adultes et les enfants, ça passait très très bien. Aujourd'hui, le jeune public, il a une part importante, non? On en parlait un petit peu tout à l'heure.
Ah oui, mais tout à l'heure, c'est... D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui se font, qui ne se faisaient pas à l'époque, sur le jeune public, pour le jeune public de qualité.
Aujourd'hui, les films d'animation, c'est plus que quoi. Bon, allez, arrivé Noël, il faut qu'il y ait le film de Noël. Disney, ils ont compris, quoi, hein. L'été, il faut le film jeune public de l'été. Même là, actuellement, il y en a deux ou trois en même temps, si je me trompe pas. Hein,
ouais, il y en a plus que ça même.
Ouais, même plus que ça. Le jeune public, c'est vraiment une part importante. On va parler de financière, quoi. Pour vous, c'est une vraie aubaine ou pas?
Ce qui se passe maintenant, c'est que les films, comme tu dis, jeune public, les films commerciaux jeune public, ils sont vus en famille. Donc les parents viennent avec les enfants, et donc c'est une sortie familiale. Et donc, ils font des films qui peuvent intéresser aussi les parents et les enfants.
Ouais,
donc,
pourquoi les enfants, ils payent 5 euros et nous, on en paye 4, 7 et...
4.
4 euros et nous, on en paye 7 et quelques, alors qu'on va voir un film qui ne nous intéresse pas, quoi. C'est pas cool, ça, les gars.
C'est parce que... C'est notre fédération qui a fait ça quand il y a eu le changement de TVA. Bon, ça serait long de vous expliquer. Donc, en contrepartie, on a baissé le prix sur les enfants.
Non, mais c'est bien, hein. C'est bien de pouvoir, en effet, mener les enfants au cinéma. Les gros ratés actuels, chez le jeune public, il y en a ou pas?
Des ratés?
Ouais, oh, des fois, quand, des gros flops.
Walt Disney, ils se sont un peu ratés à Noël, quand même. Hein,
c'était avec, quoi
comment il s'appelait
Qu'est-ce qu'il y avait?
Ah oui, avec sur la planète là, le bonhomme là qui va défendre une planète et ça a pas trop marché.
Le petit robot?
Non. C'est un film, pas un dessin animé.
Ouais, ça me parle pas moi.
Après le titre, je m'en souviens plus.
Bon. Sinon, le jeune public est donc très très important pour le cinéma, le cinématographe aussi.
Brise de fer, non? C'était le film.
Ouais,
Disney. Voilà. Brise de fer. Vois, alors voilà. Moi, ça me parle même pas. Ouais. Au moins, c'est
Brise
réglé.
De fer. Il est, c'était un Disney. Il est passé complètement.
Mais c'était une production française quand même. Hein.
Voilà. D'accord.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la production des films pour le jeune public, elle se divise en deux. Il y a des films de détente, mais de très belle qualité, c'est pas, tu vois. Et puis après, il y a tout un réseau de films d'auteur, de cinéma d'auteur.
Bob l'éponge, par exemple.
Non, Bob l'éponge, non. Et justement, où les auteurs travaillent à éduquer d'une certaine manière, à hisser le public vers le haut, quoi. Et ça correspond à ce que dit Jean-Paul, c'est-à-dire que vous êtes parents, vous accompagnez vos enfants, les enfants le prennent à leur niveau à eux, et les parents le prennent à un autre niveau de lecture. Et en fait, les gens sont contents, parce qu'en fait, on sort plus intelligent qu'avant qu'on soit rentré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
qui n'est pas donné à tous les films, quoi. Voilà.
Et puis c'est une soirée familiale qui revient pas trop cher pour 4 personnes, par exemple. Ça reste un loisir de 2 heures qui est accessible.
Très bien.
Et en gros... au niveau capacité de votre salle et fréquentation,
en semaine,
ouais.
Ben nous, c'est en année.
C'est variable. Hein,
en 2014, on a fait 80 000 entrées.
Mais c'était pas une année bissextile. Mais il compte sur 100 000 cette année.
Ouais, un jour de plus. Mais bon, c'est vrai qu'on tourne. Notre meilleur chiffre, c'est 86 000. Alors, maintenant, on tourne autour des 80 000.
C'est quand même il me semble que c'est des bons chiffres.
Et puis tenir la dragée haute à des gros complexes, ouais, comme les pâtés et tout le reste, pas évident.
Non, c'est pas évident, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a une programmation assez éclectique, donc ça veut dire que les gens viennent un peu de tous les coins, quoi. Et du coup, on draine le public qui est au-delà du carrefour de Château.
Ah
quoi.
Oui.
Voilà.
Ah,
mais oui. Ça reste quand même une fréquentation très importante par rapport au ratio de population. Ce côté-là, on est content.
C'est un public très éduqué aussi.
C'est le bon clientèle, tu veux dire?
Ouais, il me semble. Hein. Ah oui, il me semble que la clientèle du cinématographe, quand même, elle est assez avertie en ce qui concerne le cinéma d'auteur, notamment.
Oui, c'est vrai.
Ça fonctionne,
les gens, ils viennent, tu vois, ils viennent au cinéma pour se détendre, pour passer un bon moment. Donc, ils viennent avec le sourire, déjà. Gérard Gattier.
Qu'est-ce qui fait qu'un... Qu'est-ce qu'il y a dans un film qui peut vous énerver? C'est-à-dire, par exemple, un film que vous allez programmer parce qu'il fonctionne, mais que vous ne programmeriez pas si c'était que de vous.
S'il n'y avait pas des contraintes commerciales. De manière générale, on aime bien programmer des films qui rendent le spectateur intelligent. On n'aime pas.
C'est bien.
Il faut pas oublier que la télévision fait ça à longueur de journée, rendre le public
abruti.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une véritable délégation de service public, ou comme la radio, comme France Inter, France Culture. Vous écoutez France Inter, vous sortez plus intelligent le soir que le matin.
Et surtout quand on écoute Fréquence Mistral, on sort très intelligent le soir.
Et ce qui n'est pas le cas du service public télévisuel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est projeter des films où le public va sortir heureux, ou contrarié, mais pour des raisons culturelles, intellectuelles ou autres, mais que intellectuellement, il soit accroché et intéressé. Voilà, c'est ça qui nous.
Mais après, là, tu m'as donné ce qui t'intéresse. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce qui t'intéresse pas.
Disons, ce qui nous intéresse pas, c'est après,
c'est personnel, mais allez-y, les gars. Quel film est-ce que de voir Sylvester Stallone et toute sa troupe, ça vous met pas un peu les boules, quoi?
Oui.
Voilà, c'est clair. Quoi.
Mais de toute façon, même, je vais te dire un truc sur les derniers films sortis, les Expendables et compagnie.
Ouais, c'est de ça que je parlais.
Le public, même le public.
Il s'y trompe pas à un moment.
Exactement. C'est des produits qui sont faits pour le public américain. Et le public français n'est pas dupe à ce niveau-là.
Parce que vous avez su aussi amener un public au cinématographe.
Oui, mais après, tu sais, tu as la force des médias, tu as la force des sorties et sur laquelle tu résistes pas. Donc, mais c'est vrai que nous, on préfère sortir des films où les gens sortent et ils se disent, on n'a pas été pris pour des idiots. Ah, ouais. Voilà.
On est généraliste aussi, donc il faut qu'on passe des films pour tous les publics.
C'est bien que tu dises ça. Justement sur les films, après peut-être qu'on va enchaîner parce que sinon ça va. Sur les films un peu, on va dire osés, style 50 nuances degrés, interdit aux moins de 12 ans.
Oui.
Je me trompe pas?
Oui.
Ouais, c'est ça, 12 ans. Ouais. Un peu. Oh, ouais. Quand même, il y a quelques scènes un peu difficiles. Alors je sais que Jimmy n'aime pas ça parce que pas. J'aime pas qu'on critique les films où il y a du sexe dedans vis-à-vis des films où il y a de la tuerie. Par exemple. Explique-toi. Moi, je suis assez en accord avec ça.
Mais disons que voilà, tu peux projeter un film où il y a 40 morts et 40 coups de feu.
Déchiquetés.
Voilà, et ça pose de problèmes à personne. Mais voir une paire de seins, voir une paire de fesses et voir des gens faire l'amour, ça pose des problèmes. Et moi, je peux pas adhérer à ce genre de situation. Quoi.
On est d'accord. Tout à fait normal, de toute façon.
Voilà, c'est tout.
Un petit morceau là qu'on écoute, Jean-Paul.
Ah, le parrain.
Oui, le parrain.
Pareil, ça. Alors là, pour le coup, ça part de 70 jusqu'à 90, les trois parrains. Et pour nous, c'est le bonheur de revoir ces films toujours.
Ce soir, on est gâtés, film, musique.
C'est un monument historique du cinéma. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas une trilogie aussi homogène. Et d'ailleurs, tu ne peux pas dissocier les trois parrains. Quoi. C'est-à-dire qu'il les a écartés de 2 ans, puis après, comme dit Jean-Paul, 90 après, 2, 4, 90. Mais c'est un bloc total. C'est-à-dire que tu ne peux pas, quand tu as fini un, tu veux enchaîner sur l'autre et ainsi de suite. Et les trois, c'est un monument du cinéma américain. Quoi.
Brando, De Niro, Pacino.
Ouais, la totale. Ouais. Du gros.
Dan Keaton.
On va retrouver le Kickstra Kitch Mix ce soir.
Voilà,
on va aller très vite.
Mais qu'est-ce que ça sera?
Et après le film.
Ouais, vous êtes toujours sur Fréquence Kitch, un spécial cinéma ce soir avec Jean-Paul et Jimmy. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de les retrouver.
Fréquence Kitch, le meilleur et le pire des années 80.
Mix ce soir, merci DJ. Alors qui c'est ce soir? C'est DJ Lolo.
Hein non, Lolol.
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 Allez, Lolol. Voilà. Avec Adèle et le groupe Magic, un groupe des années 80, groupe funk. On retrouve le cinéma de Jean-Paul et Jimmy ce soir, le film de la soirée. Film des années 80 ce soir.
Eh ben oui, et c'est pas n'importe quel film qu'ils ont choisi, et toujours avec ce même acteur d'ailleurs, on le retrouve tout le temps, c'est Voyage au bout de l'enfer, film américano-britannique, ou plutôt, en fait, c'est les Britanniques qui étaient plus en avant, je crois, que les Américains sur ce film-là, réalisé par Michael Cimino, et donc avec Robert De Niro, John Cazale, donc d'ailleurs c'était le dernier film, je l'ai mis entre parenthèses, John Savage aussi, Meryl Streep et Christopher Walken, eux c'était leur premier gros succès en fait, si je me trompe pas. Il est sorti en 78, hein, trois ouvriers partent combattre au Vietnam, mais ils ne rentreront pas indemnes de ce périple entre séquelles physiques et autres psychologiques. En fait, il s'agit du premier film américain qui traite de la guerre du Vietnam. Donc, et du traumatisme que cette guerre a suscité. Voyage au bout de l'enfer a fait l'objet de nombreuses controverses, notamment à cause des fameuses scènes de roulette russe visibles sur l'affiche qu'on a mis. Hein. Ce film a toutefois obtenu 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Christopher Walken, du meilleur film et du meilleur réalisateur. C'est votre film fétiche, ça, les gars?
Ah oui.
Pourquoi? Ah oui. Pourquoi
ce film? Parce qu'on adore ce film. D'ailleurs, le vrai titre, c'est pas Voyage au bout de l'enfer, c'est Le chasseur de thé.
C'est vrai.
C'est déjà plus cool comme titre. Et c'est aussi une grande histoire d'amitié et d'amour entre trois personnages.
Pourquoi ce film, il a semé autant de controverses, selon vous?
Parce que c'est comme le Clint Eastwood en ce moment, c'est parce que les gens ne savent pas voir les images. Il n'y a pas de controverse à avoir. D'abord, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est que sur les 3h02, il se passe uniquement 20 minutes au Vietnam. N'oublions pas ça. Et je crois, à vérifier, mais ça lui a été imposé par les producteurs. Et du coup, il a dit 20-25 minutes au Vietnam, il faut marquer les esprits. Il faut frapper très fort et il a imaginé la scène des roulettes russes sans savoir si rien n'a jamais prouvé, aucun journaliste n'a prouvé que c'est des pratiques qui ont existé pendant la guerre du Vietnam. Voilà.
Alors ceci dit, moi il y a une chose que je peux affirmer, c'est que j'ai eu l'occasion de faire l'interview d'une femme qui a vécu de grosses problématiques en son pays, en guerre, un pays en guerre, hein. Et moi elle m'a raconté à mon micro que en fait leur jeu favori c'était la roulette russe, parce qu'en fait ils avaient rien d'autre à faire à part partir d'un appartement à un autre en se cachant pour éviter les balles, hein, d'accord. Donc on peut imaginer que existait la roulette russe.
Le film kitsch de ce soir, je crois qu'on va se retrouver sur le karaoke kitsch et on va finir la soirée qui est passée très rapidement avec vous, les gars. Ah oui.
Trop.
Fréquence kitsch, le meilleur et le pire des années 80.
Allez, on va chanter tous ensemble.
Non, chante pas moi.
Jimmy, Jean-Paul. Il est timide, Jimmy. Il veut pas chanter.
Il
sait pas chanter non plus.
Terminé. Je réveille mon voisin. Il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. J'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séance. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
Allez Jean-Paul, à toi.
Oh putain. On va l'aider.
La photo sur le montant peut faire sourire ou pleurer.
Non, c'est trop dur.
Mais je connais le destin. D'un cinéma de quartier, il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière chance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
C'est bien Jean-Paul. Jimmy alors ?
Non.
Bye bye, les roues que j'aimais, l'entracte est terminé.
Bye bye.
Bye bye. Rendez-vous à jamais. Mes chocolats glacés. Oh, glacés.
Hey.
J'allais rue des solitaires à l'école de mon quartier. À 5h j'étais sorti. Mon père venait me chercher. Envoyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers.
Fais des progrès Jean-Paul.
Oh, oh, oh. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un meubleur dans un coin, son cinéma est fermé. C'était sa dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
Soirée spéciale ce soir, cinéma, avec Jean-Paul et Jimmy. Merci à vous les gars.
Merci.
Merci.
On n'a pas besoin de route.
Ah En espérant que vous avez passé encore une excellente soirée avec nous. Jean-Paul et Jimmy, on a été vraiment ravis. On a découvert des tas de choses ce soir avec vous. On s'est régalé. On a passé vraiment un bon moment.
Il y a une chose, on voulait leur poser une question. C'est vrai que tout à l'heure, on en a parlé. Sur le coup, on a oublié de la passer. Parce qu'on a dit que ce serait quand on passerait justement Eddie Mitchell sur les vieux cinémas, les anciens cinémas. Cette nostalgie-là, elle est présente en vous, non?
Ben, disons, nous, quand on a ouvert le cinéma, déjà à Château-Arnoux, c'était un peu de la municipalité parce que l'ancien cinéma était fermé déjà. Donc, ils voulaient relancer le cinéma sur la commune. Et donc, c'est déjà une ancienne salle qui rouvrait.
Quelques mots sur Eddie Mitchell et son émission, La Dernière Séance. C'est quoi ce sourire en coin?
C'était exceptionnel parce qu'en fait, il y avait souvent des inédits ou des films très peu vus, des copies qui venaient de la cinémathèque. Mmh. Et surtout, bon, je connais la directrice du cinéma qui existe toujours. Hein,
là-bas, à Paris.
Voilà, oui. Qui est tournée l'émission. Et pour répondre à ta question tout à l'heure sur les salles, il y avait. Le cinéma nous renvoie à notre propre vie, notre propre existence. C'est pour ça qu'on a une nostalgie, pas du temps qui a passé. Mais au moment où on a vu des films, on se souvient d'un moment, d'une odeur,
c'est ça,
de la salle, tu vois. Et ça, c'est très présent, en fait. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu Le Voyage. Je me souviens quand j'ai vu Les Parrains. J'ai vu... voilà. Souvent, tu te souviens d'un lieu, tu te souviens. Et surtout, à l'époque, les salles de cinéma avaient été totalement moquetées. Et quand on marche maintenant, où il y a du PVC, du plastique et tout, tu vois. Et là, il y avait une odeur particulière.
C'est vrai.
Et cette odeur-là, elle a disparu.
Eh oui, c'est
on
vrai.
Ne la retrouve que dans certaines salles parisiennes.
On a le son maintenant, on ne peut pas tout avoir. Hein.
Voilà, c'est ça.
On a le son.
Alors, tu retrouves ça dans certaines salles parisiennes, assez vieilles ou autres. Mais c'est des trucs, c'est des odeurs qui ont disparu. Quoi.
Une dernière chose, parce qu'après, c'est vrai que c'est l'heure. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, donc je venais chez vous depuis Aubignos, à vélo ou à pied.
Quand tu étais petit?
Ah oui, j'étais petit. Mais j'étais pas grand.
C'était nous, t'étais.
Et je venais chez vous étiez déjà grand. Hein. Et je me rappelle d'un film, une fois, on se faisait chier, on est venu. Et c'était un film où il fallait gratter au fur et à mesure.
Oui,
oh putain!
Il ressort là!
C'était la merde ce machin!
Non, c'est
avec
pas
des
sauteurs!
Ah si, ça pue la merde par moment!
C'était pour la fête du cinéma.
Énorme!
Bon les gars, je vais vous couper. Je vous rappelle qu'on se retrouve avec une soirée flashback vendredi 13 mars au cabaret à Villeneuve avec l'équipe de Fréquence Kitsch. Demain, jeudi, on retrouve Hervé Roland pour une spéciale funk, Black Station. Hervé, écoutez-le, c'est vraiment sympa ce qu'il fait, de la musique à
c'est la musique funk, d'Hervé qu'il faut écouter surtout.
Jean-Paul,
Hervé,
à bientôt.
Oui, très bientôt.
Jimmy, à bientôt. Merci beaucoup de votre passage.
Merci.
Les Kitschers, on se retrouve la semaine prochaine avec Pat. Pat, bonsoir.
Allez, ciao mon petit filou.
J'ai
à bientôt.
Allez, ciao. Bye.